invité avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Et ce soir, j'ai reçu Malik Hadouk, directeur de la gestion diversifiée de CPR AM. Bonsoir Malik.
Bonsoir Camille.
Merci d'être là. Merci également à Pierre-Olivier Béfi, gérant et chef économiste chez Boussard et Gavaudan. Bonsoir Pierre-Olivier.
Bonsoir Camille.
Et puis merci Alexandre. Alexandre Baradez, chef analyste chez IG.
Bonsoir.
Alors au programme ce soir, on va parler de l'éléphant dans la pièce, la Fed moins au quiche que prévu. L'inflation demeure élevée, mais la croissance économique n'est pas aussi forte qu'anticipée. Alors évidemment, face à ce constat, la Fed écarte une hausse des taux. Jérôme Powell affirmait mercredi, nous sommes prêts à maintenir le taux cible actuel des taux fédéraux aussi longtemps que nécessaire. Alors ça veut dire quoi, selon vous, aussi longtemps que nécessaire? Malik, peut-être vous commencez.
Si longtemps que nécessaire, ça veut dire tant que nous n'avons pas de certitude que l'inflation retrouve un train de baisser, qu'on s'en rapproche.
Toujours la date indépendance.
Ah, la date indépendance, plus que jamais ici importante. Et en tout cas, l'élément important hier soir, c'est qu'il a de facto indiqué qu'il n'y aurait pas de hausse de taux. Donc ça, c'est quelque chose de très important. Donc on reste dans un contexte de baisse de taux à venir. Maintenant, il s'agit de déterminer le timing. Puis un autre élément important, c'était la réduction du quantitative tightening.
Tout à fait, ouais.
Ça va alléger aussi un peu la pression sur le marché obligataire, qui frôle encore les 5% sur le 2 ans. Mais ce que le marché action regarde, c'est le 10 ans, très précisément.
Bien sûr.
Et c'est là que les choses vont se jouer. Alors sur l'inflation, on doit se positionner aujourd'hui en disant clairement, est-ce qu'on pense que la déflation subit un arrêt ou est-ce que ça va repartir? Alors quand on regarde la hausse des taux récentes depuis le début de l'année aux États-Unis et en Europe, on remarque que cette hausse des taux est due principalement à la composante croissance plus qu'à la composante taux.
Oui.
Si on regarde les taux 5 ans et on les décompose entre inflation et croissance, on est plutôt 30-40% du côté croissance, un peu moins de 10-12% sur le côté inflation. C'est la même chose en Europe.
En Europe, ouais.
Donc, ce qui a animé les marchés actions, en tout cas, et le marché obligataire, c'est ce repricing de la croissance qui n'était pas attendu, puisque je vous rappelle qu'en début d'année, on pressait tous une éventuelle récession à venir.
Bien sûr, oui.
Qui est aujourd'hui, a priori, totalement
écartée.
Même si les dernières statistiques US récentes montrent un fléchissement un peu de la croissance économique qui a un peu surpris. On en connaît les raisons. Il y a des importations qui ont beaucoup joué, qui indiquent que la demande reste quand même soutenue. Mais on a des indices manufacturiers et de services qui ont aussi rebaissé assez sensiblement. Et là, c'est plutôt un facteur positif pour l'inflation aux États-Unis, puisque la composante inflation avait monté essentiellement dû à des facteurs de services aux États-Unis. Si elle ralentit, ça devrait avoir un impact sur l'inflation. Donc on est, nous, plutôt dans le camp de dire que la désinflation, elle a subi un coup d'arrêt, mais ne s'est pas arrêtée pour le moment, et on tape toujours sur une baisse des taux de la Banque centrale américaine au cours de l'année 2024.
D'accord. Pierre-Olivier, votre position. L'inflation, c'est une pause avant que de nouveau ça diminue ou c'est plus inquiétant que ça?
Alors moi, sur l'analyse, oui, je suis un peu du même avis que Malik. Mais après, moi, la grande question que j'ai, c'est combien de temps va durer la pause?
C'est ça, voilà.
Et aujourd'hui,
c'est l'incertitude majeure, là.
Oui, alors en fait, on voit bien qu'il y a deux composantes. Il y a la composante d'inflation qui vient des biens.
Ouais.
Et celle-là, elle était plutôt négative, voire très modérée. Et là, elle est plutôt un peu en train de repartir, parce que la Chine a refait un peu de stimulus.
Tout à fait.
L'Europe aussi, on a une petite amélioration cyclique, ouais. On le voit à travers les statistiques de crédit. Donc je pense que l'inflation des biens, elle va rester modérée, mais malgré tout, elle va réaugmenter un tout petit peu. Et puis, ce qui a le plus gêné les banques centrales, je crois que c'est l'inflation des services. Et là, on voit clairement une dichotomie entre les pays où on a des énormes déficits publics où il y a déjà eu de la consolidation budgétaire. C'est-à-dire que dans les pays où il y a de la consolidation budgétaire, l'inflation des services, elle baisse. Alors que dans les pays où on a au contraire des déficits budgétaires très importants, eh bien, elle a tendance à être résiliente.
Ouais. Voilà.
Et je pense que c'est le cas des États-Unis. Alors, je pense d'ailleurs qu'il y a plein de pays qui sont c'est un peu la fête foraine des déficits en ce moment. Mais enfin bon, aux États-Unis, le CBO tablait sur 5,5% de croissance. Là, le FMI vient de sortir un rapport comme quoi il attend 5,5% 5% de déficit public. Ouais. Là, on attend 8,8% de déficit public selon le FMI, qui a pris les prisons CBO, mais qui a ajouté d'autres hypothèses, notamment sur les charges d'intérêt. Hein. Mm-hmm. On est à la fin de l'argent gratuit, donc maintenant, ça commence à coûter beaucoup plus cher aux États d'être endettés. Ouais, donc, ces charges d'intérêt pèsent sur les déficits publics. Alors ça, ce n'est pas le côté forcément très stimulant des déficits publics, mais en plus de ça, bon, on a encore l'IRA, on a encore beaucoup de programmes budgétaires qui sont expansionnistes. Et donc, aux États-Unis, moi, j'ai l'impression que cette année, on a encore beaucoup de stimulus, encore une fois, embarqués. Je pense que l'inflation va rester assez résiliente encore une bonne partie de l'année. Voilà. Moi, je suis beaucoup plus inquiet pour 2025, parce que au-delà des États-Unis, je pense que l'inflation, ça reste quand même un phénomène, entre guillemets, un peu mondial, même si l'économie américaine, c'est la plus... celle qui dirige un peu l'économie mondiale, on va dire ça comme ça. Ouais. Mais on est quand même dans une année d'élections. Il y a 88 élections cette année, donc on savait que généralement, voilà, c'est pas le moment où on réduit les déficits. Voilà. Mais l'année prochaine, on aura énormément de pays qui seront dans leur première année après les élections. Et là, je pense qu'il va falloir prendre quelques mesures parce que malgré tout, les déficits sont vraiment trop élevés. Et je pense que c'est là les vrais risques. Et peut-être pour rebondir sur ce qu'a dit Malik, moi, je pense qu'un des gros risques qui est sorti complètement du spectre, c'est quand même un ralentissement très marqué, voire une récession de l'économie mondiale. C'est sans doute pas le cas à court terme. On n'a aucun indicateur qui nous l'indique. Mais je pense pour 2025, ce scénario ne doit pas être complètement occulté. D'accord. Et dans un marché où, par exemple, vous regardez la distribution des risques sur les marchés obligataires, c'est assez clair qu'aujourd'hui, vous avez à peu près disons dans les proportions 40% qui pensent qu'on on a une légère pause dans la désinflation. Après, vous avez un peu plus de plutôt vers 50% qui pensent que l'inflation va rester très forte, voire peut un peu réaugmenter. Ouais. La probabilité d'une récession, elle est pricée à moins de 5-6% dans les marchés. Oui. Donc, c'est un peu ça le danger.
C'est écarté, ouais.
Voilà. Et pour une fois, peut-être qu'il y aura un point d'entrée, notamment vers l'été, pour commencer à se poser des questions sur comment ça va être un peu long sur la duration ou réévaluer les perspectives de baisse de taux, notamment pour 2025, sachant qu'aujourd'hui, par exemple, aux US, on a une baisse de taux pour la fin de l'année et deux pour l'année prochaine. Mais si vraiment on a un ralentissement prononcé et que notamment le taux de chômage monte, je pense qu'ils peuvent être beaucoup plus agressifs pour baisser les taux. Voilà. Donc j'aurais tendance à penser qu'aujourd'hui, il ne faut pas trop se précipiter vers les baisses de taux cette année. Ouais. Ça risque d'être assez résilient encore au niveau de l'inflation. Par contre, 2025, c'est un vrai sujet d'interrogation pour moi. Bah, après, c'est sans doute un peu trop tôt pour le jouer à ce stade-là.
Alexandre, votre avis, vous, sur 2024-2025?
Alors déjà, 2024, effectivement, ce qui fait que les marchés ont connu cet état d'anomalie depuis octobre, c'est que la croissance a tenu bon et l'inflation, surtout en 2003, avait une cadence de ralentissement qui était très marquée.
Ah oui,
et Jérôme Powell l'a récemment dit, alors pas hier, mais dans une intervention il y a près d'un mois de cela, même 15 jours, qu'il aimerait revoir les progressions qu'a réalisé l'inflation en 2023. Et ce qu'on voit, effectivement, si on prend l'inflation PCE cœur, qui est la partie donc, sous-jacente la plus surveillée par la Fed, en 4 mois de temps, on a ralenti de seulement 1%. Pas 1%, 0,1%. Donc, c'est anémique. Et ça, c'est un des problèmes qui fait que la Fed doit garder ses taux élevés. Et le risque qu'on peut avoir, c'est que jusqu'à présent, l'économie tenait bon par rapport au stimuli budgétaire qui est toujours en place et que, effectivement, l'effet des stimuli progressivement va commencer à ralentir alors que la politique monétaire est bien restrictive. C'est ça que le marché, je pense, avait peut-être un peu perdu de vue ces derniers temps, c'est que c'est bien une politique qui est restrictive, mais il y a tellement d'impulses budgétaires en face que l'effet restrictif, on ne le ressent pas encore trop. Et quand l'impulse budgétaire va diminuer, ça va monter un peu plus fortement dans l'économie. Et le scénario boucle d'or, c'est qu'effectivement, la croissance tienne et l'inflation ralentit. Mais là, ça fait maintenant un bon trimestre, presque un trimestre et demi, qu'il n'y a plus de progrès sur l'inflation. Et les data avancées, effectivement, ISM Service, on est plus proche des 50 que des 55 désormais. ISM Manufacturier, toute la partie PMI était contractée aux États-Unis depuis quelques temps.
On est sous les 50. Ouais.
Voilà, et donc ça, c'est le risque. On commence à le voir un petit peu apparaître de ce côté-là. C'est qu'il faille plus de temps pour ramener l'inflation à l'objectif et que du coup, les taux restent élevés plus longtemps, mais avec des indicateurs avancés qui peuvent commencer à ralentir un petit peu. Et d'ailleurs, il y avait une question hier qui a été posée qui n'était pas anodine. Est-ce que, à Jérôme Powell, est-ce qu'il pense qu'on va vers une stagflation? Parce que.
Tout à l'heure, le mot est lâché, ça y est, voilà.
C'est lâché, alors je ne m'engouffrerai pas là-dedans. Ouais. Mais le fait de poser la question, c'est que les observateurs notent cet aspect indicateur avancé. Par rapport à une inflation qui fait peu de progrès. Et donc, Jérôme Powell, c'est un peu son job aussi, il ne va pas dire « oui, mon Dieu, je crée un stagflation », mais il dit pour l'instant. En projection, il a peut-être volontairement botté un peu en touche en parlant des data court terme. Ensuite, il y a un autre élément qui, dans sa conférence de presse, je l'ai trouvé très « et en même temps ». C'est-à-dire qu'on ne sait pas trop quel côté il bascule. En décembre, c'est très clair,
c'est un pivot. Mais ce n'est pas sur quel pied danse, vraiment.
Il y a un pivot. Ensuite, la résilience des données, tous les speakers de la Fed, même les colons, des Goolsbee ou autres, avaient commencé, bien avant lui, à dire attention, les baisses de taux, ce n'est pas garanti pour cette année. Et c'était le seul qu'on attendait sur ce champ-là. Et il l'avait, il y a 15 jours, était dans cette rubrique-là en disant on n'est pas pressé de baisser les taux dans ce contexte-là. Et on s'attendait à quelque chose de la même nature hier, ce ton qu'il y avait il y a 15 jours, que les marchés n'avaient pas trop aimé d'ailleurs. Et qu'on n'a pas eu. C'est-à-dire qu'il a réussi à alterner systématiquement des phrases un peu faucons avec des éléments colombes. Et donc c'est quelque chose de très très centré ce qu'on a eu hier. Et en même temps, il y a une phrase, il a vraiment dit que... je ne sais pas, le fameux je ne sais pas.
Ouais.
Je ne sais pas si l'inflation va ralentir ou pas plus que ça, et donc si cela mérite une baisse de taux. Et ce je ne sais pas, en fait, ça met un focus absolument et une pression incroyable sur les data économiques.
Bien sûr,
donc ça veut dire que les prochaines données, donc demain évidemment, rapport sur l'emploi et prochain composante de prix ISM, service, composante de prix ISM, autre.
Auront un poids énorme et vont être scrutés par les marchés.
Voilà, mais du coup, ça va exacerber aussi la nervosité des marchés dans les deux sens, à la baisse. Oui. Et donc, je ne sais pas si c'est un cadeau qu'il a fait là, mais les algos et tous les observateurs l'ont bien compris, c'est que les prochaines data vont être absolument cruciales. Et si elles ne tombent pas du bon côté, le VIX, on le retrouvera au-delà de 20. Si par contre ça va du bon côté, je pense que les plus historiques, on va les revoir assez vite aussi. Voilà un peu le sentiment qui a eu hier sur cette intervention-là. Et qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? J'ai oublié. Ce que je retiens, c'est que je trouve que les marchés, en revanche, c'est que les marchés sont en train d'une séquence quand même depuis quelques jours maintenant, quelques semaines, qui est une séquence un peu plus méfiante.
C'est l'incertitude et l'attente.
De la grosse nervosité, mais je trouve et je pense qu'il y a de quoi continuer dans ce schéma-là. Après, d'un point de vue technique, vous avez passé le sommet du S&P en 2022 et on n'est pas venu chercher ce sommet. Il n'est pas très bas, mais il est 5-6% plus bas que le niveau actuel. Je trouve qu'on a les cartes en main actuellement pour que les marchés justement digèrent un peu cette grosse séquence ce rallye octobre
jusqu'au trimestre
et qu'on vienne un peu se poser pullback, un truc assez classique. On vient chercher les anciens sommets, on travaille un peu puis on repart après. Voilà.
On espère qu'on repart après. Alors ça c'était pour les US. Hein. Alors évidemment en zone euro c'est pas du tout la même chose. Hein. Est-ce qu'on n'aurait pas un calendrier un petit peu plus lisible quand même, parce qu'on a eu des très bons chiffres de l'inflation européenne en avril, 2,4% stabilisation conforme aux prévisions. Donc le processus de désinflation est confirmé. Donc ça ouvre quand même assez grand la porte à une première baisse des taux en juin. Est-ce qu'elle aura vraiment lieu en juin? Et quelle va être la baisse? Alors combien de baisses et quelle sera l'ampleur de la baisse? Parce que la Banque Centrale Européenne a laissé entendre qu'elle pourrait baisser ses taux plus que ce qui est prévu par le consensus. Alors selon vous, quel sera le niveau de baisse? Malik, vous voulez commencer?
En tout cas, sur juin, il y a une certitude, il y aura une baisse. Alors, la communication est très mal faite de la part de...
Oui, l'inverse serait très, très, très mal perçu. Donc là, ils sont obligés d'y aller.
Voilà, parce que l'inflation a continué à baisser en zone euro, ce qui est un bon élément.
Ouais.
Après, contrairement à ce qui est dit, je pense que la BCE est dépendante quand même de la politique de la Fed, parce qu'il y a un facteur qui est très important, c'est l'évolution à venir de l'euro.
Bien sûr.
Et une dépréciation trop marquée de l'euro pourrait avoir des relents de retour de l'inflation par les prix importés.
D'accord.
Donc je pense que les 25 BP sont une certitude. Ensuite, il y a quand même un frémissement de retour de l'activité en zone euro. Les choses sont, et même sur les résultats d'entreprise, on en parlera tout à l'heure,
sont
de bonnes factures. Ils sont peut-être un peu meilleurs que ceux qui ont prévalu aux États-Unis sur le trimestre, sur ce premier trimestre de l'année 2024. Donc, sur les baisses de taux, il y en a une qui est actée, c'est celle de juin.
Ouais.
Ensuite, ça dépendra honnêtement de la politique de la Fed. Je pense que malgré tout ce qui se dit, ils sont prisonniers de ce que la Fed pourrait faire dans les mois à venir. Si la Fed ne baisse pas ses taux, je pense que la BCE n'ira pas forcément plus rapidement dans la baisse des taux, à moins qu'on ait une dégradation des situations économiques.
D'accord.
Et d'ailleurs, la situation, là, pour revenir un peu sur les US, je pense qu'il y a un marché que la Fed regarde avec attention, c'est le marché du travail, c'est l'évolution à venir.
Bien sûr,
parce que hier, il a plusieurs fois mentionné le fait que si le marché du travail venait à se dégrader, il baisserait les taux.
Oui.
Donc, est-ce qu'ils ont des indications ou pas?
En tout cas,
sur le marché du travail aux États-Unis, on voit que le taux de démission a complètement plongé.
Ouais.
Donc les gens sont plus enclins à rester
dans leur job.
Donc il y a des indications sur le marché du travail qui commencent à montrer qu'il y a aussi un ralentissement qui pourrait s'opérer dans les semaines à venir. On pourrait avoir un taux de chômage qui remonte progressivement. Sur les salaires, il n'y a pas de sujet, parce que ce soit en Europe ou aux États-Unis, je ne vois pas de pression salariale qui viendrait réalimenter la thèse inflationniste. Donc, en Europe, c'est vraiment la situation économique. Donc, oui, une baisse des taux en juin, et on pourrait en avoir une deuxième Si il y avait des éléments qui permettaient à la BCE de penser que la Fed pourrait agir.
Pourrait baisser elle aussi, d'accord. Votre avis, Pierre-Olivier, vous ?
Oui, moi, si j'avais un scénario, je dirais qu'ils vont essayer, ils vont le faire en juin, et puis ils vont essayer un meeting sur deux, voilà, en essayant de voir un peu à chaque fois, justement, le taux de change. Je pense que toutes les banques centrales, notamment dans les, même dans les pays émergents, c'est un peu leur problème. Moi, je reviens notamment du Mexique et d'Amérique latine. Bon, c'est pareil, on attendait, ils voulaient tous baisser les taux, mais maintenant, ils se disent, mince, mais si on baisse trop les taux, on va envoyer nos devises
c'est ça,
à la cave, donc c'est pas très bien.
Ça, ouais,
donc, et on voit d'ailleurs qu'il y a beaucoup de pays qui ont des problèmes avec ça. Le Japon, on commence à avoir des interventions, si le dollar s'apprécie trop, ça va être un peu trop gênant. Et c'est quand même dans la tête de tous les investisseurs qu'il y a quand même une divergence au niveau des politiques monétaires.
Ah,
on l'a vu
récemment
avec le franc suisse qui s'est beaucoup déprécié parce qu'ils y sont allés les premiers. Voilà, donc le marché est très sensible à ça. Donc je partage l'avis de Malik. Là, j'ai pas grand-chose à rajouter. Je dirais juste que pour la Fed, peut-être parce que la BCE, le scénario de la BCE dépend aussi un peu de celui de la Fed. Je pense que ce qui va beaucoup compter, c'est est-ce qu'on est à 4 ou à 3% en tendance vers l'inflation. Moi, je pense que ça va être très compliqué quand même sur la dernière jambe de baisser fortement aux États-Unis, une fois compte tenu du stimulus budgétaire, ce que j'expliquais juste avant.
Ouais.
Mais après, il y a une grosse différence. Si on est à 3%, je veux dire, la Fed... 2 ou 3% pour elle, c'est quoi? De toute façon, ils ont envie de baisser les taux, ils ont envie de ce soft landing. Ouais. Ils vont pas jouer le risque de garder une politique monétaire trop resserrée trop longtemps. Et puis bon, des taux réels sur la partie longue à 2,2-2,5%, ça fait quand même très très mal aux finances publiques, à plein d'agents. Donc à la fin, ils savent que quand même, il y a des effets qui vont coûter in fine. Donc je pense que voilà, c'est ça qu'il faut regarder. Je pense que le prochain chiffre d'inflation aux US est important. Moi, je pense qu'il peut... J'avais une vue que l'inflation pouvait un peu être résistante à partir du mois de février, être au-dessus des attentes. Je pense que sur le prochain chiffre d'inflation qu'on va avoir, je crois que c'est le 13 mai, je crois, le prochain chiffre d'inflation aux États-Unis.
Ouais.
Bon, je pense que c'est un peu 50-50, je ne suis pas sûr que ça soit. Mais je pense qu'à partir de juin, on va commencer à voir l'inflation légèrement refluer ou être un peu plus, entre guillemets, vers le 0,3 que le 0,4 en variation mensuelle. Et ça peut faire une grosse différence aussi pour les marchés. Aujourd'hui, on a pricé quand même un scénario assez négatif sur l'inflation. Donc, si on a une moindre petite bonne nouvelle, je pense que les marchés peuvent repartir un peu à la hausse en attendant la grande séquence des élections américaines qui va commencer sans doute cet été.
Oui, bien sûr.
Pour rebondir là-dessus, c'est vrai qu'il y a quand même une dépendance de la BCE. On a beaucoup clamé haut et fort qu'on est indépendance, que c'est le message qu'a voulu faire passer Christine Lagarde et qui était bien audible. Oui, effectivement, la première baisse est justifiée parce que les indices d'activité, on peut en reparler d'ailleurs, rebondissent maintenant un petit peu en zone euro, mais on a quand même eu un creux assez sensible. Mm-hmm. Aussi sur la partie des services. Alors qu'aux États-Unis, les services sont restés résilients, il y a eu un peu de contraction au niveau manufacturier, mais les services sont restés au top pendant longtemps. Donc l'Europe a quand même une structure économique, une direction économique qui était quand même pas mal différente, donc qui peut justifier ce 25 points de base. Mais on voit quand même que les marchés ne croient pas à la séquence où on serait totalement libéré de la dépendance américaine. Sinon, on aura un euro-dollar qui serait déjà revenu à la parité, même peut-être sous la parité. Et on aura des taux européens, 10 ans allemands, 10 ans français, qui seraient nettement plus bas. Or, on voit quoi? On voit que sur la dernière séquence d'avril, on a une très grosse corrélation avec les marchés américains. Finalement, quand les marchés européens, après le sommet, le CAC a relâché 200-300 points, c'est parce que les marchés américains ont corrigé. Oui. Et parce qu'effectivement, dans toute cette séquence, CPI résiliente, PCE résiliente, on a eu la semaine dernière des indications sur le T1. Alors c'est du passé effectivement, mais sur des indices de prix du PIB qui étaient nettement supérieurs aux attentes, vous avez l'inflation PCE Core T1 qui était supérieure aux attentes. Encore aujourd'hui, vous avez des indications sur le coût unitaire du travail aux États-Unis nettement supérieur en termes de progression à ce qu'on attendait, et avec une productivité, une croissance de productivité qui était moins bonne. Donc ça et ce que vous dites sur l'inflation tout à l'heure, je partage totalement ça. Sur le côté, le risque qu'on peut avoir aux États-Unis, c'est qu'on voit que l'inflation dans les services, moi je ne crois pas qu'elle reparte, c'est pas le débat. Et c'est pour ça que j'étais hier tenu à dire que Powell crée une surprise en disant on ne remontera pas les taux. Pour moi, c'était acquis. Le débat, c'était plutôt combien de temps rester longueur, le higher for longueur, combien de temps longueur que remonter les taux. Donc, j'étais un peu surpris quand même la réaction assez exacerbée du marché à ce moment-là. Mm-hmm. Mais les services, l'inflation des services a ralenti. Elle forme comme une espèce de plateau depuis quelques temps. Et le problème qu'on a, c'est que ce qui avait beaucoup contribué à des inflations, c'est notamment tout ce qui est énergie et l'inflation des biens.
Ouais.
Et on remarque dans la partie core de l'inflation qu'on a eu l'autre fois, ou PCE, je ne sais pas si la core ou la globale, mais que la contribution négative des biens durables à l'inflation était moins négative, si vous voulez. C'est-à-dire que ça se redresse un petit peu, mm-hmm. alors que les services, eux, ne baissent plus. Bah, c'est ça qui vous crée le plateau, en fait. Et ça vient de quoi? Ça peut venir de tout ce qui est... On voit que les prix à la production sont un peu plus dynamiques qu'aux États-Unis. La hausse des matières premières, 8-9% en moyenne, entre l'énergie, les métaux, les produits agricoles, sur les indices synthétiques de matières premières. Je pense que ça commence à se voir un petit peu dans cette partie manufacturière, bien durable ou autre. Et donc, Le risque est un peu là. C'est pas que ça accélère à toute blinde. La Chine exporte plutôt une déflation en ce moment, donc il n'y a pas de raison d'imaginer que ça reparte complètement. Mais il y a des raisons de croire que ça puisse faire un plateau, ce fameux socle, qu'on a du mal à casser. Effectivement, peut-être qu'il faudra peut-être 2 mois, 3 mois de plus pour arriver à le percer plus durablement et pour aller vers les 2,5 et en deçà. Et voilà, pour moi, le risque, il est un peu là. Et du coup, je ne vois pas l'Europe se dégager de ça d'un point de vue monétaire. Je pense qu'on a vraiment un calque de l'Europe qui va se faire sur la partie américaine. Et même si on a des PMI qui se redressent en zone euro, c'est plutôt pas mal ça. La Chine qui semble se stabiliser un peu, des PMI composites qui réaccélèrent un peu en zone euro. C'est très bon pour les indices à moyen terme, c'est plutôt bullish pour les indices. Mais il y a une séquence de quelques mois où je pense qu'on va être très très tributaire au niveau européen de ce qu'on va avoir des marchés US, aussi bien sur les taux que sur la partie action.
Donc on ne va pas avoir une divergence entre les marchés actions US et européens, même si la BCE va baisser ses taux avant la Fed.
J'ai du mal à y croire, parce qu'encore une fois, la séquence des 4 dernières semaines, on a eu exactement ce qu'ont fait les États-Unis sur les taux et sur les actions. Alors, peut-être ça peut varier un peu en termes de pourcentage, mais là, dans le momentum, c'était
dans le momentum, ça serait identique. Votre avis, Pierre-Olivier, pareil?
Après, il y a deux choses. Je pense que d'abord, il y a l'aspect sectoriel. On ne parle pas exactement de la même chose quand on parle des marchés américains. Pareil aussi, on voit que la tech a un peu plus souffert, mais donc on le voit aussi sur le Nikkei. Enfin, tous les gros agrégats d'actions qui sont un peu plus sensibles à la tech ont eu un peu plus de mal avec la hausse des taux. Voilà.
Bien sûr, oui, mais ça c'est.
Et l'Europe, depuis le début de l'année, a fait plutôt pas mal. Donc il y a parfois des explications sectorielles. Voilà. Là-dessus, bon, j'ai pas d'avis hyper tranché. Si on pense quand même que les taux sont, enfin en tout cas la partie longue commence un peu à se stabiliser, je suis pas sûr que ça soit très négatif, notamment pour la tech. Etc. Je pense qu'au contraire, ce sera plutôt vu comme quelque chose qui leur permettra de respirer un peu. Voilà. Ouais. Si c'est le cas, bon, bah, y a pas de raison non plus que l'Europe surperforme beaucoup là-dessus. Après, moi, je pense que malgré tout, l'Europe a entre guillemets, un cadre macroéconomique quand même plus simple qu'aux États-Unis quand même. Enfin, on a de l'inflation qui a bien baissé, une banque centrale qui va quand même un peu baisser les taux.
Les perspectives sont quand même plutôt bonne hein, pour 2024 au niveau européen. On ne peut pas vraiment dire que ce soit tout à fait le cas encore aux US. Alors, est-ce que ça pourrait donner un souffle d'air un peu au marché actions européen qui est quand même aussi moins valorisé qu'aux US hein.
Oui, donc, y a cet aspect-là. Et donc, la Banque Centrale Européenne, peut-être qu'elle baissera plus ou moins, ça dépendra de la Fed. Mais enfin, elle est quand même engagée pour commencer à baisser. Donc, ça, c'est plutôt bien.
Bien sûr.
Si en plus, je dirais, l'euro se déprécie un tout petit peu, ça ne sera pas non plus mauvais pour l'indice. Voilà, donc, ça sera peut-être un peu plus négatif pour les Américains qui voudraient investir chez nous parce qu'ils sont en dollars. Mais je veux dire, on a un peu de sensibilité quand même dans tous nos indices aux sociétés exportatrices. Voilà, donc je trouve que le setup est plutôt pas mal. En plus, ça a été un cycle un tout petit peu de reprise en Europe. Je pense que le gros risque maintenant en Europe, c'est de savoir si ce cycle de reprise ne va pas justement amener un moment à ce que l'inflation reparte un peu. Mais je pense que le sujet est beaucoup trop précoce aujourd'hui. Donc, pour l'instant, je dirais que d'un point de vue macro, l'Europe est plutôt... Enfin, le cadre me paraît meilleur qu'aux États-Unis au niveau des marchés actions. Voilà. Ouais. Mais encore une fois, avec le bémol qu'on ne parle pas exactement des mêmes secteurs.
Oui, des mêmes secteurs, voilà.
Donc, je ne suis pas sûr qu'à la fin, en net, ça soit si clair qu'on ait une surperformance massive des marchés européens.
Oui, voilà. D'accord. Alors Malik, vous, qu'est-ce que vous en pensez
Ils ont évoqué tous les côtés positifs.
Ouais.
En terminant en disant qu'on a du mal à voir la surperformance de l'Europe. Moi, je suis plutôt du côté de on devrait avoir cette année une surperformance de l'Europe parce que sous-valorisée, parce que baisse des taux et parce que on a un pays, l'Allemagne, qui redémarre la Chine qui redémarre. Donc, on est beaucoup plus connecté à ces aspects extérieurs que ne sont les entreprises américaines. Donc moi, oui, je serais plutôt d'avis à dire que l'Europe est bien partie pour se performer cette année. Ça fait longtemps que ça n'a pas eu lieu. Mais les conditions sont favorables aujourd'hui pour une surperformance du marché européen face au marché américain, où les valorisations dans certains secteurs, honnêtement, sont très, très, très tendues. Ça s'explique par la progression des bénéfices qu'on a connus au cours des dernières années. La surperformance du marché américain, elle s'explique très simplement... Par la surperformance de certains secteurs, notamment les secteurs technologiques, qui ne sont pas représentés sur la côte européenne. Mais là, si on a une reprise qui s'amorce en zone euro, ça devrait permettre aussi aux valeurs cycliques de rebondir et de permettre à l'Europe de continuer sa surperformance.
C'est ça, tout à fait.
L'élément important, c'est l'effet aussi devise qui a été mentionné, qui devrait jouer en faveur jusqu'à un certain point. Hein, parce qu'à partir d'un certain moment... Ça va jouer en défaveur de la zone euro. Donc, si on s'apprécie autour des 1,05, c'est pas dangereux à ce niveau-là. Si on repart vers la parité, là, ça devrait devenir un peu plus compliqué. Parce qu'on révisera aussi à l'impact de la hausse des coûts pour les entreprises européennes.
Bien sûr.
Mais le momentum semble favorable pour les indices boursiers européens.
D'accord. Pierre-Olivier, vous, du coup, vous voyez des secteurs qui pourraient tirer parti d'une baisse des taux, là?
Moi, j'aime beaucoup...
Il y a des prises de bénéfices sur la tech, quand même.
Oui, bien sûr. Alors, bon, la tech, c'est... je ne sais pas. Moi, les secteurs que j'aime beaucoup en Europe,
ouais,
c'est d'abord les bancaires.
Ouais,
je trouve que les
sûr.
Bancaires,
ouais,
bon, la performance est très bonne, mais là, pour le coup, on est aussi à des valorisations. Je pense que c'est un peu comme ce qui s'est passé au Japon. Si on regarde sur le marché japonais, sur ce qui s'est passé sur les bancaires, on part quand même d'une zone où structurellement, on parlait de déflation. Bon, là, la déflation, il faut oublier, je veux dire, on va plus retourner à des niveaux d'inflation faibles ou voire négatifs. Je veux dire, c'est pas possible. Donc, rien que ce spectre-là donne en plus une dimension structurelle assez favorable aux bancaires. Et en plus, donc ça, on part donc de valorisation très, très faible. Et puis en plus de ça, le crédit est en train de repartir, le crédit domestique est en train de repartir. Donc ça, c'est très bon pour les bénéfices des banques. Donc, généralement, les gens disent en plus, ça hedge contre la hausse des taux si ça continue. Voilà, en tout cas, sur la partie longue.
En plus, oui.
Et si on a un peu de baisse sur la partie courte, de toute façon, on sera très content parce que les volumes de crédit vont repartir.
Augmenter,
donc,
net-net,
je trouve que par exemple, c'est typiquement un secteur que j'apprécie énormément. Voilà.
D'accord.
Après, il y a deux thématiques. Je pense que la thématique de la défense aussi, c'est pas nouveau. Hein, mais
bien
bon,
sûr, oui.
Chaque fois qu'on regarde ça, on dit ça a déjà bien monté. Mais enfin, ça continue de monter. Voilà. Donc, je pense que. C'est pour moi, c'est toujours un peu pareil aussi. Enfin, si je fais un peu le contrepoids à Malik, ce qui me gêne juste sur l'aspect surperformance de l'Europe, et encore une fois, c'est qu'il y a toujours ces biais sectoriels qui troublent un peu l'analyse. Parfois, c'est un peu gênant. Et puis, la deuxième chose, c'est que je pense que c'est un thème où les gens étaient très sceptiques en fin d'année dernière, qui a commencé à s'installer finalement de manière aussi plus forte depuis un trimestre, parce qu'on a vu que l'Europe commençait à superformer.
Ouais,
on a vu des flux arriver aussi. Donc, du coup, on s'est dit, c'est le début de quelque chose. Et donc, la narrative s'est un peu aussi mise dans le marché. Donc, c'est toujours un peu ça qui me gêne d'un point de vue tactique aussi, de me dire, faire peut-être un peu attention, qu'il y a peut-être déjà un peu de consensus un peu là-dessus. Donc, voilà. Mais bon, ça reste.
Il y a la dynamique quand même des résultats d'entreprise qui sont de meilleures factures qu'attendues en Europe. Et puis, un second élément, si je peux me permettre, c'est le rachat d'actions, qui aujourd'hui en Europe est en train d'accélérer. C'est un facteur qui a soutenu pendant longtemps aux États-Unis. Et cette année est en train d'accélérer en Europe. Les entreprises se mettent de plus en plus à racheter leurs actions, ce qui va soutenir aussi le cours. Mais le point le plus important pour moi, c'est la dynamique des bénéfices d'entreprise.
D'accord.
Ouais. On a accéléré au cours du trimestre,
bonne saison de résultats,
avec des marges qui, malgré tout, se sont maintenues, alors qu'on avait beaucoup de craintes sur l'Europe. On avait moins de craintes sur les États-Unis, mais en Europe, on a eu des résultats de bonne facture. Bon, il y a certaines entreprises qui ont été lésées par d'autres éléments, mais au global, il y a eu une révision à la hausse des perspectives bénéficiaires sur l'Europe.
Mais aux US, d'ailleurs, les résultats sont pas trop mauvais. C'est plutôt le marché qui a quand même tendance à sanctionner très sévèrement ceux qui n'ont pas atteint le consensus. Et puis... qui ne valorisent pas, outre mesure, ceux qui ont dépassé les attentes des
analystes. Oui, parce qu'on était sur certains secteurs à des niveaux de valorisation très, 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 très élevés. Oui. Déjà, donc, il fallait vraiment surprendre très agréablement positif.
Voilà.
Si vous regardez les résultats, vous analysez les résultats aux États-Unis, ce qui est marquant dans ce que disent les entreprises, c'est que pour la plupart, elles ont réussi un très bon premier trimestre. Ça vous explique que le deuxième trimestre est beaucoup plus challenging parce qu'il y a des hausses de coûts, notamment au niveau de l'intelligence artificielle sur beaucoup de secteurs et d'investissements importants. Mais qui dit investissement, des résultats pour plus tard. Mais les investisseurs considèrent que ce n'est pas assez compte tenu de la progression qui avait été atteinte par la plupart de ces entreprises avec des records en termes de performance boursière sur un trimestre qui était assez impressionnante.
Ouais.
Donc on ne pouvait pas se maintenir ce trend sans avoir des résultats explosifs.
Alexandre, sur la saison de résultats ou peut-être...
Non, c'est plus sur les questions d'allocation, par exemple, peut-être plus géographique, voir s'il y a des zones qui redeviennent un peu attractives. C'est vrai que si on regarde la partie émergente, alors ça, les émergents, c'est un fourre-tout, mais comme dans l'indice emerging, la Chine, c'est plus de deux tiers.
Oui, voilà, c'est sûr qu'on regarde
la Chine. Elle a quand même des signaux en termes de balance commerciale. Il y a deux mois, par exemple, elle a battu, c'est passé un peu au travers, elle a battu un excédent commercial absolument massif, 125 milliards d'excédent. Alors ça tombait le mois d'après à 58 milliards, qui est plus en ligne avec les mois d'avant, mais il y a quand même une dimension plutôt intéressante. Et c'est surtout le qui a plus, je pense, et qu'il faut aussi que les marchés actions chinois se reprennent un petit peu, c'est que c'était la grosse faiblesse, ce stress immobilier a stressé évidemment les consommateurs chinois.
Bien sûr, la crise immobilière a tout pour
Et quand on regarde le marché à yield chinois, qui est bien pondérée en dette immobilière, on remarque qu'il s'est la fin de se dégrader depuis déjà deux bons trimestres. Alors, ça ne part pas à toute blinde, mais il y a un gros plateau bas qui tend à se redresser un tout petit peu sur le segment yield chinois et le Hang Seng, donc si on prend le Hang Seng, la valeur chinoise côté Hong Kong, qui suit la même pente.
Voilà. Voilà.
D'ailleurs, 1% depuis le plus en bas. Donc, on a quand même cette impression que très progressivement, ça commence. Alors, l'industrie est toujours bonne parce que et c'est certains segments, comme même l'automobile, inquiètent l'Europe et les États-Unis tellement ils exportent de voitures peu chères. Mais au-delà de ça, il y a ce segment qui est quand même un peu trompe-l'œil. Mais après, le reste, qui était en plus structurel, demande intérieure, avait quand même beaucoup de mal à envoyer des signaux positifs. Et là, on commence à avoir quelques petits signaux, les indices d'activité dans les services, par exemple, ce genre de choses, qui tendent à être plus liés au comportement des consommateurs. Donc je dirais que si on joue la thématique émergente, la reprendre plus fortement avec des valeurs chinoises, la tech notamment, qui vaut deux fois moins en termes de valo que. C'est des 10 plus à 15 fois les bénéfices en moyenne, alors qu'aux États-Unis, on est toujours à des 30 et quelques, mais ce qui est historique. Hein, mais les valeurs chinoises sont vraiment devenues peu chères. Et la tech chinoise, toujours assez performante, qui est vraiment très très peu chère. Donc ce segment-là me paraît intéressant. Et après, si on devait faire des secteurs un peu plus spéculatifs en Europe, mais effectivement, si on pense les baisses de taux en Europe, on aura quand même plus qu'aux États-Unis. Tout ce qui est immobilier coté, les foncières cotées, ça a lâché 50%. Un an, un an et demi, on voit une espèce de plateau bas qui tente de se former. C'est un truc pour gens patients, mais j'ai quand même l'impression que voilà, il y a quand même besoin de construire, il y a un besoin, on ne peut pas laisser ces boîtes faire faillite non plus. Donc à un moment donné, les baisses de taux vont quand même arriver, les besoins de construction sont toujours là. Donc les foncières cotées sont vraiment très peu chères. Je trouve que c'est un pari spéculatif, mais entre guillemets, qui peut être à tenter. Ouais. Et puis l'aspect après, si on pense à la Chine, on pense au tourisme loisir, peut-être cette poche-là, bon, qui n'est pas non plus. Elle n'est ni très chère, ni pas chère, quoi, mais. Je trouve que c'est voilà, je vois pas pourquoi on vendrait le tourisme loisir dans les sauf si récession américaine qui venait vraiment pointer le bout du nez, mais si on prend que la thématique Europe-Chine, les valeurs européennes dans le tourisme loisir, je trouve qu'elle serait plutôt à travailler à la hausse qu'à la baisse en ce moment.
D'accord. On va parler de l'or peut-être maintenant, hein. Alors toujours au sommet.
Juste, si je peux parler sur la Chine, je suis totalement d'accord puisque moi c'était mon dada la Chine depuis le début de l'année. Donc je suis assez content de ce qui se passe. Maintenant, c'est peut-être le moment de switcher, d'aller sur les valeurs locales qui n'ont pas bénéficié du rallye qu'on a assisté sur les valeurs technologiques, parce que c'est la HSCI qui a progressé de plus de 25% par rapport à ses plus bas. C'est un des meilleurs performants aujourd'hui en Asie avec Taïwan. Mais les valeurs locales chinoises, si on peut investir dessus, aujourd'hui sont attractives parce qu'il y a tout un pan, notamment ce qui a été mentionné sur l'immobilier qui s'est stabilisé. Hein. Mm-hmm. Mais le gouvernement a tout fait. Ce qui est bien dans l'histoire, c'est que personne ne croyait au fait que le gouvernement avait la volonté à un moment donné d'arrêter la baisse de ce marché, parce que tout le monde disait que étant un gouvernement communiste, il ne s'occupait pas de la richesse des Chinois. Mais là, il s'est rendu compte que quand même, il y avait un incident important sur la consommation des Chinois. Donc, il a stabilisé le marché. Hein, ça a pris du temps, mais il a réussi à la stabiliser. Il y a eu des flux énormes. Ce n'est pas les étrangers, encore une fois. Hein, c'est les acteurs locaux qui ont investi pour soutenir le marché. Et puis, il y avait des niveaux de valorisation qui étaient au tapis, notamment sur valeurs technologiques, qui se traitaient à 8 fois, alors que c'est des entreprises vivantes. Alors, le seul risque de la Chine, c'est les sanctions américaines, encore une fois.
Oui, bien sûr, parce qu'il y a quand même une grosse incertitude.
L'évolution de la géopolitique aussi.
C'est pas qu'il serait le jour novembre.
Voilà. Mais même aujourd'hui, les sanctions qui sont prises par l'administration Biden et qui continuent. Hein,
ça peut se dégrader encore. Hein, ça.
Voilà, c'est ce à quoi je pensais. Et puis sur les émergents, là aussi, le seul élément, on en parlait tout à l'heure, c'est l'évolution du dollar, quoi. Si aujourd'hui vous avez un dollar qui continue à s'apprécier, c'est un peu négatif pour les économies émergentes. Même si on est assez surpris de voir qu'au mois d'avril, la seule classe d'actifs qui ressort positivement en termes de performance, c'est la classe d'actifs émergente. C'est dû effectivement en partie à la Chine. Mais si vous prenez un indice hors Chine, vous êtes à zéro, alors que les indices américains baissent de 4% en avril, les indices européens de 3%. Donc on a eu une surperformance des émergents dans un contexte où on avait une hausse des taux, une appréciation du dollar, mais qui s'était arrêtée, mais quand même une appréciation du dollar. Mm-hmm. Mais c'est aussi dû au dynamisme qu'on a revu sur la zone asiatique, avec des PMI, pour la plupart des zones asiatiques, qui ont rebondi, qui se maintiennent à des niveaux élevés. Si on prend le cas de l'Inde, qui a un PMI qui se maintient autour de 60, avec une économie qui croît à plus de 8%. On a un questionnement sur la valorisation du marché indien, parce qu'il se traite à plus de 25, aujourd'hui 25-26. Vous avez une croissance qui est là pour se maintenir. Donc les actions chinoises, les actions indiennes, restent intéressantes, même si moi, personnellement, je préfère aujourd'hui les actions chinoises, compte tenu de la valorisation. Mais vous avez la Corée, la Taïwan, aussi, qui sont aussi attractifs.
Alors, on va clôturer. Hein. Alors, je vous avais demandé de faire des devoirs. Alors, Céline May and Go Away, c'est pas très adapté comme dicton boursier cette année, hein, parce qu'on a quand même une performance mensuelle négative en avril sur les marchés boursiers US, sur les marchés boursiers européens, et évidemment à Paris, hein, moins 2,7%. Donc là, évidemment, tout le monde surveille, mais avec attention. Donc, quels seront les principaux défis auxquels les marchés vont devoir faire face ce mois-ci et quels indicateurs vous avez particulièrement surveillés en ce mois de mai ? Alexandre, vous commencez ?
Ça va être le. Pour moi, c'est les data américaines. C'est ouais. Ce que vous disiez tout à l'heure. Je pense que l'Europe ne pourra pas se défaire pendant quelques temps. Je ne dis pas à long terme, mais pendant quelques temps, je pense qu'il y aura cette dépendance aux données américaines. Donc, ça commence dès demain. C'est le rapport sur l'emploi. Il y a plein de choses. On va regarder les créations. On va regarder le taux de chômage parce qu'on sait que ce qui a été dit, que Powell, la première alerte sur le taux de chômage, ce sera la baisse de taux qui suivra directement derrière. Et les salaires quand même, parce qu'effectivement, même si les salaires ne contribuent pas à réaccélérer l'inflation, c'est quand même un frein à un retour à l'inflation à 2%. Et il progresse toujours à plus de 4% aux États-Unis, ces salaires. Donc, on essaie de regarder ça. Voilà, est-ce qu'on passera un peu à nouveau sous les 4% ou pas? Donc, toutes ces données-là, ça va être important. Je ne vois pas de raison, effectivement, de. Le CNU va me commencer un petit peu plus tôt. Ce qui, encore une fois, moi, je ne suis pas très fan de ces éléments calendaires. Je sais qu'ils existent en moyenne sur des périodes de 20 ou 30 ans. Ouais. Mais c'est le court terme qui fait les marchés ou le sentiment de marché. Et je ne vois pas ce qu'on a vu, là, toute la séquence d'avril, je ne la vois pas changer fondamentalement en mai. Donc, pour moi, on est en contexte qui justifie toujours. J'appelle ça de la consolidation. C'est-à-dire que je ne crois pas du tout à un retour à des moins 20, moins 30 sur le marché américain du tout. Mais par exemple, on parle de l'Europe par rapport aux États-Unis. Un CAC qui peut retomber à des 7007 par exemple. Il y a des niveaux techniques d'anciennes zones qu'on a cherchées. Pareil, ce fameux pullback, on casse des zones, on va s'appuyer un peu dessus. C'est des retracements de l'ordre par rapport au sommet entre 5 et 10%. Voilà, c'est ce genre de choses que je vois. Donc on a déjà fait une partie du chemin. Le risque, je le vois encore peut-être sur quelques pourcents. Peut-être 4, 5% pour aller chercher un peu plus bas ces zones techniques. Mais je vois plutôt une hypothèse un peu consolidante sur la partie européenne. Des analyses comme le MIB, par exemple, je trouve toujours très très attractif sur les mois à venir. Il a beaucoup progressé, il respire un peu, et je pense qu'il va repartir chercher les niveaux, c'est un essor dividende qu'on regarde, mais les niveaux d'il y a deux décennies. Donc je suis toujours très bullish sur l'Europe, mais je pense que la respiration en cours peut continuer encore, voilà, pendant au moins le mois de mai, peut-être encore juin, avant de commencer à revoir peut-être les éléments un peu plus bullish arriver. Donc voilà, pour moi, toujours un peu de consolidation, un peu de prudence en mai, donc pour moi, le dicton c'est, au mois de mai va s'appliquer.
D'accord. Cher Olivier, qu'est-ce que vous en pensez, vous ?
Moi, je pense que le chiffre le plus important, c'est l'inflation américaine.
Ouais, voilà. C'est ça.
Le reste, je ne suis pas très sûr. Bon, on regardera les effets, mais bon, ils seront bons, tout sera bon. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de problème. Voilà, j'ai du mal à avoir un gros problème sur ces données. Peut-être qu'en effet, on regardera peut-être l'aspect salaire, parce que je suis d'accord, passer en dessous de 4% sur en glissement annuel aux États-Unis sur les salaires, ça peut être quelque chose d'assez, pour le coup, de rassurant. Voilà. Donc, pour moi, c'est ça qui ferait la différence. Si les taux américains, la partie longue notamment, va aller toucher les 5% parce que les gens s'inquiètent vraiment que l'inflation réaccélère. Bon, bah là, oui, on fera les moins 10%. Mais sinon, je pense que peut-être que le gros effet. Donc, je comprends ce scénario à moins 10%. Après, je pense que c'est cette donnée qui sera un peu cruciale. J'ai l'impression que les marchés risquent peut-être, pour le coup, alors si je donnais un petit scénario, de ne pas faire grand-chose jusqu'à la semaine prochaine. Et puis après, commencer à essayer de choisir un camp, voire au moment de la donnée américaine, se dire, bon, bah voilà, on a peut-être eu un peu trop peur et ça remonte, ou au contraire.
Une tendance pourrait quand même se dessiner en mai.
Oui, je pense, oui.
D'accord.
Et c'est pas forcément négatif. Je pense qu'en effet, il y a aussi déjà eu un mois d'avril qui, d'ailleurs, on voit bien sur la saisonnalité, d'habitude, est très bon. Là, il a été mauvais. Donc, bon, ouais. Mois de mai, il est pas forcément bon. Bon, voilà, ça se trouve, ça sera peut-être pas si mal. Voilà.
D'accord. Manu, vous en pensez
Ce dicton, il n'est pas concentré sur le mois de mai. Ce dicton dit que la période.
Oui, ça veut dire qu'ensuite, on part en vacances.
Voilà. Mais ça ne veut pas dire que la performance sera négative. En fait, la meilleure performance pour les marchés boursiers en moyenne, c'est entre octobre et avril. Entre avril et septembre, c'est là où la.
Là, avec Jérôme Powell au 1er mai qui nous lâche. Je ne sais pas.
Oui, mais vous avez une élection américaine. Généralement, quand il y a une élection américaine, même si c'est Trump qui gagne, généralement, les performances sont plutôt positives. Donc là, ce que ça veut dire, c'est que les performances qu'on a connues, on ne continuera pas sur ce même train. Je suis d'accord qu'il y a une consolidation qui est en train de se mettre en place. Mais moi, ce que je regarde, c'est le chiffre de l'inflation, parce que c'est lui qui va dicter si, sur le taux 10 ans, on va aller vers les 5%, qui est un niveau où là, c'est un niveau d'alerte pour les actions.
D'accord.
Parce que ça remet en cause les niveaux de valorisation, ça remet en cause beaucoup, beaucoup de choses. Donc ça, c'est vraiment, on est data dépendante sur l'inflation américaine et sur le fait qu'on n'ait pas aussi des chiffres qui se détériorent très rapidement aux États-Unis. Mais d'un autre côté, ça contrebalancera l'effet négatif puisqu'on aura une baisse des taux. Et là, on anticipera une baisse des taux à venir. Donc le chiffre le plus important aujourd'hui, parce que le marché est centré là-dessus, c'est l'inflation américaine.
D'accord. OK. Eh ben merci messieurs, merci d'avoir été invités de Planète Marché ce soir. Merci Malik Hadouk, vous êtes donc directeur de la gestion diversifiée de CPR AM. Pierre-Olivier Béfi, gérant et chef économiste chez Boussard et Gavaudan. Alexandre Baradez, chef analyste chez IG. Merci beaucoup.
Merci.